Comment qu'il va?
Ça va bien, toi?
Grosse nouvelle qui vient de sortir il y a quelques minutes de ça.
Oui, Michael Wernick, le greffier du conseil privé, pour que nos auditeurs comprennent bien, le greffier du conseil privé, c'est le secrétaire général du gouvernement, c'est le chef de la fonction publique et c'est le sous-ministre du premier ministre.
Exact.
Et Michael Wernick, ben, il avait été obligé de se mouiller pas mal, puis je pense qu'il s'était mouillé plus que nécessaire au comité parlementaire.
Dans l'histoire de SNC.
Dans l'histoire de SNC-Lavalin. Il avait été vraiment très loin, à la limite de la partisanerie. Moi, je l'avais écouté en me disant, mais mon Dieu, qu'il va loin.
Rappelle-nous, il avait dit...
Il avait dit, entre autres, les gens, nous vivons dans une époque où il n'y a plus de respect pour les politiciens, puis j'ai peur qu'il y en ait un qui se fasse descendre pendant la campagne électorale.
Écoute...
Mais, là, je me dis, mais c'est quoi cette affaire?
Il avait l'air un peu...
Paniqué, il avait l'air...
Le greffier du conseil privé, Tu t'imagines quelqu'un qui est en pleine maîtrise de lui-même,
oui,
quelqu'un qui est rationnel, quelqu'un qui est sage, qui est calme. Lui, il avait l'air d'une espèce d'excité.
Ah oui, complètement. Et moi, ceux que j'ai connus, avec qui j'ai travaillé, Paul Tellier, entre autres.
Qui est vraiment l'image ultime, je dirais, du greffier du conseil
privé.
C'est
des gars qui paniquent pas.
Non.
C'est des gars qui gardent les mains sur le volant, comme disait Charest en d'autres circonstances.
Sans froid.
Sans froid. Non partisanerie, c'est très important, parce que tu sais, un ex-premier ministre, on va en reparler tantôt, là, il y a quand même un paquet de, pas de responsabilités, mais de choses qui lui échouent, par exemple, des contacts avec l'étranger, ainsi de suite. Et ça passe par qui? Ça passe par le greffier du conseil privé. Quand ton ancien premier ministre, que ce soit M. Chrétien, M. Harper, M. Mulroney, a besoin d'un peu de soutien pour un endroit où il est invité, c'est en discussion avec le greffier du conseil privé que ça se fait. C'est un fonctionnaire qui est supposé être au-dessus de la mêlée. Alors, il y a eu la bonne idée, ou quelqu'un lui a donné la bonne idée, M. Wernick, je pense qu'il s'était brûlé bien comme il faut dans cette affaire.
Alors, ça vient d'arriver. Maintenant, tu voulais nous parler du contrôle des armes à feu.
Parce que en Nouvelle-Zélande, il est arrivé la tragédie dont tout le monde a entendu parler. Et immédiatement, la Nouvelle-Zélande a dit, nous, on va prendre des mesures pour renforcer le contrôle des armes à feu.
Mm-hmm.
Il y avait eu des incidents en Australie. L'Australie l'a fait d'une façon assez radicale. D'ailleurs, je pense qu'il y a même 1 million de citoyens qui ont rendu des armes, qu'ils ont déposées à la police pour qu'elles soient détruites. Alors, ici au Canada... Ça fait déjà un bout de temps que M. Trudeau laisse entendre que, oui, on va aller plus loin.
Alors, on va l'écouter.
Oui.
On va l'écouter au mois de décembre dernier. Il était au microphone de Paul Arcand. C'est le 6 décembre, donc jour de la commémoration du massacre de Poly. Pierre, c'était le père. Justin Trudeau, donc, il est ici. Il est assis dans la chaise que tu occupes présentement, mon cher Luc. Et il parle à Paul Arcand.
On est en train de réfléchir comment on va mieux faire pour contrer la violence faite par les armes de poing et les armes type d'assaut. Là, oui, c'est inacceptable ce qui se passe.
Mais donc, ultimement, les interdire.
Il y a différentes façons qu'on est en train de regarder, mais oui, on veut limiter l'accès facile que malheureusement qui demeure pour les criminels à des armes de poing et d'assaut.
Alors, je veux juste dire, là, avant que vous commenciez à m'inonder de textos, là, on parle pas d'un registre ici. C'est pas de ça dont on parle. Je parle pas d'un registre. Moi, là, je suis un chasseur, OK, Luc? Je suis un chasseur.
Si vous allez... T'es permis en bonne et due forme,
ben
tu me l'as déjà montré.
Ben oui, puis si vous êtes... Moi, là, je vais vous dire l'affaire, là. Si vous allez dans une armurerie, là, dans un magasin de chasse et pêche, OK, puis vous allez voir les armes... Vous allez voir un bon 12, un 12 pompeux, un 12 semi-automatique. Vous allez voir des 22. Mais vous allez voir aussi des armes de gros calibre.
Des armes d'assaut.
Qui ont l'air des armes militaires. Ça n'a rien à voir avec une arme avec laquelle tu vas aller à chasse à l'orignal ou à chasse au chevreuil. Ce sont des armes, des copies de, notamment du fameux AR-15 qui a été utilisé dans plusieurs massacres aux États-Unis.
Et. Qui est lui-même une copie du M16 de l'armée américaine.
Voilà. Et donc, les militantes, qui milite, dis-je, pour interdire certaines armes d'assaut, c'est à ces armes-là auxquelles elle pense et auxquelles moi je pense, Luc, et c'est ces armes-là que Trudeau...
Et les armes de poing, évidemment.
Et les armes de poing aussi.
Les armes d'assaut et les armes de poing.
Oui.
Je trouve ça encore étrange qu'on puisse acheter une arme de poing au Canada. Évidemment, il y a toutes sortes de mesures de sécurité qui n'existent pas aux États-Unis, soyons francs, on est quand même pas mal moins ouverts que les Américains. Mais tu regardes, parce que je suis allé voir là, sur des sites web là, des marques bien connues, je n'ai pas à leur faire de publicité négative ou positive, mais des marques bien connues qui vendent des armes à feu. Quand tu arrives aux armes de poing, tu dis « wow, des Brownies, des Beretta, vraiment des fusils qui sont utilisés
Tu vois, il y en a un qui déjà, il y en a un qui m'écrit, il dit c'est pour le tir sportif.
Ouais, je comprends, mais c'est drôle, mais moi, les armes de poing, je sais pas à quoi c'est. Je pense qu'on devrait se passer de tir sportif. Je sais qu'il y a des gens qui vont sauter en l'air.
Ouais.
Moi, j'ai grandi dans une maison où mon père était militaire. OK? Puis mon père était militaire et ce qu'il nous enseignait, c'était que les armes, c'est pas un jeu. Et il était très sérieux avec ça.
Ouais.
Même des fusils jouets, quand on s'amusait avec notre petit fusil de plastique à le viser vers quelqu'un, il nous donnait une tape sur le fusil. On fait jamais ça avec des armes. Des armes, c'est sérieux. Et moi-même, je suis maintenant associé avec le monde militaire où forcément, il y a bien des armes.
Ben oui.
Et je te le dis, les militaires en général, pas tous, mais les militaires en général considèrent qu'une arme à feu, c'est pas un jouet, là. C'est vraiment pas un jouet. Et s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est bien eux autres.
Alors donc?
Trudeau promet ça, puis qu'est-ce qu'il fait?
Ben pour le moment, il fait rien.
Ben, il nomme Bill Blair comme ministre responsable de comment il l'a appelé? Ministre de la Sécurité frontalière et de la réduction du crime organisé.
C'est ça.
Il lui confie le mandat. Il dit dans sa lettre de mandat là, qu'il donne au début quand il est assermenté comme ministre, vous devriez piloter l'examen d'une interdiction complète des armes de poing et des armes d'assaut au Canada qui n'entraverait pas l'utilisation légale des armes à feu par les Canadiens. C'est ça que disait sa lettre de mandat, Blair.
Puis depuis ce temps-là, il consulte, puis il décide de rien. Puis sais-tu quoi, Luc?
Puis il taponne.
Je te prédis qu'il va continuer à taponner
parce que
le vote rural, les députés libéraux du monde rural, ils accepteront pas en année électorale un resserrement des contrôles sur les armes d'assaut et les armes de poing, même si ça n'a rien à voir avec la chasse.
En fait, ce serait même dangereux pour Trudeau d'aller beaucoup plus loin parce que non seulement il y a de la division dans son caucus, mais il y en a dans le caucus du NPD aussi.
Eh oui.
Puis les conservateurs font plutôt front commun contre ça. Alors, évidemment, il n'y a pas de l'air parti pour aller de l'avant. Il l'a dit quand il fallait souligner l'anniversaire de la tragédie de la Polytechnique. Mais là, il confie ça à son ministre avec une espèce de mandat. Ah. Je pense pas qu'il va faire grand-chose. Moi, le registre, je crois pas beaucoup à la capacité du registre de changer quoi que ce soit. Là. Puis je trouve surtout que c'est une grosse bébite qui coûte pas mal cher. Non,
tu vois, moi je suis pour le registre.
Ni pour ni contre, moi ça m'indiffère.
Mais l'interdiction des armes d'assaut,
ça je suis pour. Ça
tu serais... Bon ben 790-9850. Est-ce que vous seriez pour une interdiction des armes d'assaut? Alors je vous le rappelle, là, je vous parle d'armes de type militaire qui sont présentement à utilisation restreinte et qui pourraient, si on le décidait, être interdite.
C'est le genre d'arme qui est utilisé par les fous comme celui qu'on a vu en Nouvelle-Zélande.
Oui, si le monde y pense que ça existe juste aux États-Unis, allez chez Canadian Tire, là, où ils vendent des armes, là, mettons, là, ou chez La Tulipe à Québec, ou peu importe, allez où vous voudrez, dans un magasin de chasse et pêche, là, vous les regarderez les armes, puis vous allez capoter. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, vous allez regarder ces armes-là, vous allez dire, ben voyons donc, c'est pas une arme de chasse, ça,
pas pantoute.
Alors là, je vais te dire une affaire. Il y a une couple de sujets là où c'est polarisé, mon gars, où les opposants sont crinqués et très, très, très militants. Les armes, ça en est un. Les pitbulls, ça en est un autre. Mais je vais te dire, les armes, là, tout de suite, quand je touche au mot arme, là, ça commence à rentrer, là, les textos, là, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Les opposants à toute intervention de l'État, c'est énorme.
Ah.
Ils sont passionnés.
Oui.
Et travaillant avec la station de Québec aussi, à Québec, oui. Je te dis que c'est une région où il y a beaucoup de chasseurs.
Oui.
Et eux autres, là, c'est l'endroit où personne ne s'enregistre. Pas personne, mais très peu de gens s'enregistrent au registre des armes à feu.
Alors, on a les premiers appels. Là, je veux pas une longue tirade sur votre droit d'avoir une arme. Là. Je veux savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des armes d'assaut et des armes de poing, c'est Alain qui nous appelle. Bonjour, Alain.
Bonjour, messieurs, ça va bien?
Très bien, oui. Je vous écoute, Alain.
Moi, je suis les armes d'assaut, je suis un chasseur. Hein? J'ai 8 armes chez moi, fusils, carabines, sont tous dans un cabinet verrouillé. Mais les armes d'assaut, qu'est-ce que tu veux faire avec une arme d'assaut? T'sais, je veux bien croire, les collectionneurs peut-être, mais vous savez, Bernard, où je suis découragé, nos règlements, nos normes au Canada, on parle de ça... Je vais vous donner un exemple. On peut commander une arme qui vient de l'extérieur par le profil des formulaires canadiens. Ils vont nous envoyer un arme d'assaut qui provenait de la Russie. On va contrôler le magasin des balles qui vont à l'intérieur de la carabine en mettant un petit pas privé. Parce qu'ici au Canada, on a dit que tu n'as pas le droit d'avoir un chargeur, selon les règles de chasse, de plus de 5 balles dans ton magasin. Donc, la petite arme qu'on te vend, on te la vend, il y a 35 balles qui rentrent dedans. Mais regarde, on va te la barrer avec un petit pas privé. Ben c'est comme ça que ça marche.
Ben oui, puis tu peux le petit rivet dont vous parlez, on peut l'enlever avec une paire de pinces là, tu sais, puis un cutter là, hein.
Puis on s'en mord avec un arme à répétition, un arme semi-automatique avec le formulaire légal.
Ben oui. C'est incroyable. Merci Alain, vous avez bien fait de le souligner. C'est ça qui m'en maudit. C'est ça qui m'en maudit parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie.
Mais pourquoi on laisse
ça? Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ben, je ne sais pas pourquoi. Ben, je le sais pourquoi. C'est parce que toute l'histoire autour du registre fédéral a craqué les propriétaires d'armes, les chasseurs en particulier. Le registre au Québec les a surcraqués.
Oui.
Et là, ils ne veulent plus rien entendre, rien, rien de rien. Même quand tu dis, voyons, tu vois bien que tu n'en as pas besoin d'un arme d'assaut pour aller chasser. Mais le monde, les chasseurs, le monde des chasseurs est écœuré des règles qu'on leur a imposées à grands frais, faut le dire. Oui. Hein, le fameux registre fédéral a coûté quoi, 2 milliards. Et donc, ils sont même plus parlables.
Mais nous autres, c'est que ce dont on parle, Bernard, faut que les gens comprennent. On ne veut pas empêcher personne d'aller chasser le chevreuil, l'orignal, le petit gibier, tout ce que vous voulez. Ce qu'on veut, c'est des armes qui sont faites pour faire la guerre et qui contiennent 35 balles qui sont, on n'est pas à la télé, mais qui sont immenses.
Des balles de AK-47.
Ben oui. Alors, 35 que tu peux tirer avec un coup de gâchette, je vais te dire, il y a besoin de... Je sais pas si tu veux tuer un troupeau d'orignal, mais d'orignaux.
Tu vas en tirer trois, là, parce que la balle va passer au travers des trois. Juste avant d'aller à Sébastien, garde bien, là. Parce que quand je te dis, là, il y a des auditeurs qui... Garde. Il y a tellement de permis, de cours à suivre, d'enquêtes, c'est assez le contrôle du gouvernement, me dit un auditeur. Ça résume en une phrase, là, l'attitude dont je te parlais. Bon, c'est ça. Sébastien, bonjour.
Oui, bonjour, M. Drainville, ça va bien?
Très bien, je vous écoute.
Oui, je vous écoutais parler, c'est que vous, la plupart des gens le confondent le côté esthétique. Vous parlez d'une AR-15, mais le calibre qui va dans une AR-15, là, c'est pour aller à la chasse à peu près au chevreuil. Là. On parle d'un calibre 5.56 ou 2.23. Donc, le fusil soit fait en bois 5 versus le look, là, vous parlez d'AR-15, mais le calibre n'est pas plus puissant, là.
Non,
vous
mais
avez
moi...
une petite voiture avec un gros moteur dedans, mais c'est le look là, que vous parlez.
Oui, mais Sébastien, le look fait peur. Le look fait peur. Le look, regarde, là, moi, je suis un chasseur. Là. Puis en passant, quand tu dis, Sébastien, là, c'est un 5.56, un 2.23, c'est quand même des balles de gros calibre. Là.
Ben, pour aller à la chasse, on parle d'un chevreuil. Oui. Là, un chevreuil, c'est une centaine de livres. Là, c'est la grosseur d'un humain, à peu près. Là. Donc, quand vous allez à l'orignal, là, la balle est 2-3 fois plus puissante que le calibre de AR-15.
Oui, mais ce que je vous dis, Sébastien, là, c'est on a-tu besoin de ça dans une société comme la nôtre, d'avoir des armes qui ressemblent à des armes militaires? On n'a pas besoin de ça. On est capable de s'équiper comme chasseur puis avoir les armes qu'il nous faut comme chasseur sans qu'on ait ce genre d'armes-là?
Ben, c'est plus pour le look, je vous dirais, là, parce que, comme je vous dis, le calibre n'est pas plus puissant, là. C'est juste que le monde s'arrête au look, il regarde le look, puis il dit « Ah, ça, c'est une arme plus meurtrière. » Mais l'arme du chasseur normal est limitée à 5 coups pareil. Donc, la capacité de tir n'est pas plus augmentée parce que l'arme à feu ressemble à une mitraillette.
Oui, mais pourquoi
donc,
on a besoin de
ça? D'aller à la chasse avec ça, c'est plus pour le look.
Oui, puis pourquoi on a besoin de ça?
Moi, c'est quoi l'idée du look? Je ne le comprends pas.
Ben, je sais pas. J'imagine le monde qui va dans les salles de tir et tout ça, il aime ça avoir le look qui vient avec. Là, c'est comme du monde qui se promène en BM. Pourquoi une BM? Pourquoi un char à 500 chevaux quand tu peux pas dépasser 100 km/h? Donc là, c'est plus ça. C'est le look qui vient avec. Vous avez des calibres 22 là, qui ressemblent à des AR-15 aussi, mais des calibres 22. 22, c'est pour aller au lièvre et à la perdrix. Là, c'est sûr que c'est quand même meurtrier, là, mais à part ça, vous pouvez pas tirer grand-chose avec ça. Là.
Moi, je trouve, je vais vous dire, Sébastien, vous êtes un ancien policier, me dit-on?
Oui.
Oui. Ben moi, je vais vous dire... C'est parce que je trouve que quand on rentre dans cette espèce d'esthétisme-là qui valorise le look militaire puis l'esthétisme militaire, je trouve que d'une certaine façon, on le cautionne. Tu comprends-tu?
Oui, c'est sûr que le look peut faire peur. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est sûr que quelqu'un voit un chasseur avec un fusil style AR-15, mais c'est peut-être plus l'incompréhension des gens aussi. Là. C'est un peu comme le registre des armes à feu. Quand le monde dit que les policiers utilisent ça, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas s'il y a des corps de police qui utilisent ça, là, mais je n'ai jamais utilisé ça quand je travaille.
OK. Merci pour l'appel, Sébastien. J'ai Richard, merci. C'est ça? Richard, en terminant, vite.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, je suis contre les armes d'assaut.
OK.
Parce que je me dis que les armes d'assaut, s'ils veulent s'en servir, là, qui font ça dans un club de tir puis qui les laissent dans un club de tir.
C'est une des, c'est une des hypothèses envisagées, forcées.
Ça,
c'est une des. Luc est en train de dire, ouais. C'est une des hypothèses envisagées. Tu veux avoir une arme d'assaut, tu la laisses au club de tir, t'as pas le droit de te promener avec, t'as pas le droit de l'avoir chez vous.
C'est ça.
C'est ça. C'est ça. Puis des armes de chasse, moi, les permis qu'on a avec 10 000, ça sert absolument à rien, c'est inutile. Les armes de chasse de chasseurs, là, ça devrait être mis, détenu par la Sûreté du Québec, dans des postes, qu'on irait chercher une fois pour la chasse au chevreuil ou la chasse à l'ornial. Quand ta chasse est finie, t'apprends à t'armer là-bas.
Oui, là, je suis pas sûr, Richard, là, que tu... là, je suis pas sûr que je vous suis. J'ai pas le goût d'aller chez la police, moi, là, pour aller chercher mon arme. Tu sais, je veux dire...
Mais c'est intéressant, ce qui avance chasse, comme hypothèse. Je veux dire, certainement, l'idée que ceux qui veulent, par exemple, avoir des armes de poing, c'est très souvent pour aller dans des clubs de tireurs.
Ouais.
J'entendais le député conservateur Pierre Paulus.
Oui.
Lui, il dit avoir des armes de poing qu'il va utiliser dans un centre de tir, dans un club de tir dans sa région.
Oui.
Bon, très bien, mais qu'il les laisse là. Mais pas qu'ils sortent de là.
Moi, ça serait. Ça, en tout cas, on pourrait commencer par ça. Je pense que ça pourrait être une façon de. Mais bon, ça n'arrivera pas, sacrifice. Ça n'arrivera pas parce qu'on est en élection, puis Trudeau ne veut pas perdre ses comtés dans les milieux ruraux. Fait que c'est ça qui va arriver. Mais voilà. ça me choque pareil. On va s'arrêter parce qu'au retour, tu veux nous parler de Brian Mulroney, qui était à Tout le monde en parle hier. De l'avis général, il a fait une excellente performance. On va vous faire entendre quelques extraits et Luc va nous faire son analyse de son ancien patron.
Voilà.
Trêville PM. La voix est libre.
Elle est la meilleure voix que les francophones de l'Ontario pourraient jamais avoir. Croyez-moi, c'est elle qui défend. La petite fille qui a démissionné, là, elle est partie. Mais Caroline est toujours là pour défendre les intérêts des francophones de l'Ontario.
Voici Luc Lavoie.
Brian Mulroney qui défend sa fille Caroline, qui est ministre dans le gouvernement ontarien.
Qui est ministre de justice, procureur général et aussi ministre de responsable de la francophonie.
Et qui s'est fait imposer... Des décisions par Ford, parce que franchement, elle aurait pu décider de démissionner là sur l'histoire du budget pour l'université francophone, notamment. Elle aurait pu décider de partir. Elle a décidé de rester.
Elle a décidé de rester, puis elle a pris la bonne décision, à mon avis, parce qu'il faut remettre les choses en perspective. L'université en question n'existait pas. Elle était projetée dans l'avenir.
Exact.
Et Ford s'est fait élire en disant qu'il allait éliminer un déficit de 15 milliards. Alors, la scie mécanique est passée un peu partout dans les finances de l'Ontario.
Mais là, t'es pas
du... Non, mais je suis pas...
T'es pas d'accord avec le fait que...
Non, je suis pas d'accord.
Qu'ils aient éliminé le projet.
Mais de dire qu'elle aurait dû démissionner non plus, je suis pas d'accord. Écoute, c'est pas la fin du monde. On n'est pas ici comme si on t'avait enlevé les subventions pour faire marcher l'Université d'Ottawa qui est francophone.
Ouais.
On n'a pas fait ça.
Les commissions scolaires francophones.
Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Ouais. Alors, démissionner pour ça, non. En politique, il faut que tu apprennes à prendre la chaleur quand elle passe. Là. Puis elle continue de défendre les franco-ontariens. Puis je la connais très bien depuis qu'elle a à peu près 10 ans, Caroline. Puis elle parle parfaitement français.
Oui.
Elle opère complètement en français quand elle le veut.
Elle est parfaitement bilingue, comme son père.
C'est une femme d'une exceptionnelle, d'un grand, grand talent, diplômée de Harvard, diplômée de Columbia University, avocate, parlant 5 langues. Écoute, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Alors, évidemment que M. Mulroney l'a défendu bec et ongles.
Puis il était bon hier. Toi, t'as trouvé qu'il était au sommet de son art.
Moi, j'ai trouvé que c'était une de ses meilleures entrevues depuis quelques décennies. Il y avait son côté taquin, son côté gamin un peu, avec un peu d'humour. Il y avait également un côté plus grave. Quand il a parlé de Nelson Mandela, il y avait de l'émotion dans ça. Quand il a parlé de George Bush, le père, pourquoi c'était un ami pour lui, au-delà des services que cela a rendus au Canada, le fait d'avoir une relation d'amitié comme celle-là, pourquoi il trouvait que c'était un homme juste et tout ça. Il y a aussi... Moi, je trouve ça un peu malheureux, mais on sent encore énormément d'amertume face à ce qui s'est passé en mai 90, quand Lucien Bouchard a quitté son gouvernement.
Mais tu sais, on va l'écouter.
On va l'écouter, allons-y.
Je l'ai congédié à 24 sur 6.
Mais lui en voulez-vous encore 29 ans
plus
tard?
Non, écoutez, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a quitté pour des raisons qu'il a données, mais j'irai pas plus loin que ça. J'ai écrit là-dessus. Lui va sûrement écrire là-dessus. Je regrette ça amèrement parce que nous étions de grands amis. Je l'aimais bien.
Hey boy, tu sens que ça fait mal encore?
Ça fait très, très mal encore. Il y a encore beaucoup d'amertume face à ça. Et je le comprends, là, tu sais, je le condamne pas. Je dis juste que l'Irlandais chez lui fait qu'il ne tournera jamais la page. Il prend ça comme une trahison personnelle. Toutes les questions de point de vue, évidemment que M. Bouchard prendrait un point de vue différent, moi qui ai gardé de bonnes relations avec les deux. J'étais là, en plein milieu de ça, quand ça s'est produit.
Ben justement, il y en a un qui me demande, il dit, t'étais là, Luc Lavoie, qu'est-ce qui s'est passé, là, en résumé, en une minute, c'est quoi qui s'est vraiment passé?
Tu veux dire s'il s'est fait congédier ou s'il s'est fait, ou s'il a démissionné?
Ouais, puis...
Ah ben j'étais là, j'étais à la porte, effectivement, de 24 Sussex, quand on disait, il est rentré, puis quand tu rentrais à 24 Sussex, tu tournais à gauche, puis il y avait ce que M. Moloney appelait son « den » en quelque sorte. À la maison, il a dit, tu peux t'asseoir, Lucien, Lucien s'assoit, j'ai décidé de te congédier, puis Bouchard a dit, ben ça donne bien, j'avais ma lettre de démission, la voici, alors tu sais, je veux dire, on
bon,
fait plutôt...
Lequel là, a fait quoi, là?
Lequel a fait quoi?
On s'en fout un peu.
Le résultat reste le même, tu sais.
Mais on s'en souvient, là, la pomme de discorde, c'était l'entente du Lac Meech.
Ben, c'est-à-dire que...
Bouchard trouvait que Mulroney était prêt à faire trop de compromis.
Il trouvait qu'il était sur le bord de diluer l'entente, et que, à ce titre-là, ce n'était plus acceptable et que c'était pour ça qu'il était en politique et qu'il allait quitter. Et surtout, il avait manifesté beaucoup de mauvaise humeur, Bouchard, quand il avait découvert qu'il y avait une espèce de canal parallèle au cabinet du premier ministre qui s'occupait de maintenir les relations avec Jean Chrétien et son entourage.
Oui.
Jean Chrétien qui était sur le bord d'être élu chef.
Oui.
Et ils se sont dit, lui, il faut les tenir tranquilles. Là. Et quand il a découvert que ce canal-là était actif pour essayer de maintenir des bons rapports avec Chrétien, M. Bouchard ne l'a pas accepté. Dis-moi, je suis un ministre senior au gouvernement, c'est un dossier qui me tient à cœur, c'est peut-être le dossier qui justifie ma présence en politique fédérale.
Oui, ben oui.
Si vous voulez zigonner avec Jean Chrétien, puis il avait dit cette phrase très forte, il avait dit, moi je suis allé en politique pour combattre des gars comme Jean Chrétien. Évidemment, Chrétien ne l'a jamais accepté, cette phrase-là non plus, là, laissait entendre, je suis allé en politique pour combattre des méchants, des mécréants.
Ouais.
Alors,
ils se sont pognés au référendum de 95, l'un contre l'autre. Hein?
Puis M. Chrétien, comme tu sais peut-être, quand Bouchard a quitté Ottawa pour devenir chef du Parti québécois, une seconde, il avait dit à Bouchard dans son bureau, face à face, « T'as essayé de me blesser, hein? T'as voulu m'humilier, hein? Je l'oublierai jamais.
» Merci, Luc.
Merci, Bernard.
Dans un instant, Gabriel Nadeau-Dubois, une initiative très intéressante. Restez à l'écoute.